Un jour, un livre, un auteur. Diego Arrabal, bonjour.
Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Très très bien. On va se déplacer à Juillan aujourd'hui. Donc on...
Ah,
Non.
sympa.
Ouais, on prend pas la voiture, hein.
Non, on va y aller à pied,
On va y aller à pied,
à
voilà.
la petite foulée comme on le faisait autrefois.
Exactement. Comme je le fais toujours, moi, Diego
Ah ouais, mais
Arrabal.
bon, ben vous êtes jeune, vous.
Alors, Juillan, petite commune du piémont pyrénéen située dans la banlieue de Tarbes. Juillan, petite commune tranquille.
Enfin.
Où se trouve... Ah oui, tranquille, si. Où se trouve, c'est inattendu, tenez-vous bien, Diego Arrabal, un musée Victor Hugo. Et il existe même une association des amis de Victor Hugo. Bonjour Jean-Claude Rieu-de-Batte.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le créateur du musée Victor Hugo et le président de l'association des amis de Victor Hugo. Où se situe ce musée à Juillan et comment en êtes-vous arrivé là à créer ce musée?
Alors, je me permets une petite correction. C'est pas les amis de Victor Hugo, c'est les amix
Les Amix
de Victor
allez,
H.
de
Point.
Victor H. D'accord, ok.
Alors,
Ah.
c'est un double clin d'œil. D'une part, amix parce que c'est le terme gascon pour ami.
Ah, d'accord.
Et donc, c'est un clin d'œil à la visite que Hugo et Juliette Drouet ont faite dans nos Pyrénées et dans notre Gascogne en 1843. Et Victor H, parce que c'est un clin d'œil au film magnifique de Truffaut, Adèle H.
Adèle H,
Voilà.
ouais.
Pardon, alors je réponds à votre question là.
Alors, la question,
Oui.
voilà, tout à fait. C'était où se situe ce
Oui.
musée à Juillan et
Alors.
comment en êtes-vous arrivé là? Mais vous avez bien fait de donner la précision.
Oui, alors pour reprendre les choses au début, j'ai commencé les activités Hugo en 2002, parce que c'était l'année du bicentenaire de sa naissance, 1802-2002, il y avait eu un peu partout des expositions, des manifestations, des conférences, du théâtre, etc. Et j'avais proposé une séance à Juillan, donc en 2002, et il y avait eu une centaine de personnes qui étaient venues un peu piquées par la curiosité.
Ah d'accord quand même.
Et puis j'ai continué tout seul, en franc-tireur. Si je puis dire, et puis est arrivé d'abord un ami de Julien, Marc, qui était lui musicien, et qui, quand je débitais des poèmes, lui m'accompagnait et me faisait un fond musical. Et puis d'autres sont arrivés, et en 2014, on s'est dit on était une demi-douzaine, qu'on devrait se constituer en association, dûment enregistrée à la préfecture, avec un bureau, des statuts, etc. Ce qu'on a fait, seulement on était à la rue. Et on est resté comme ça quelque temps, et puis la mairie nous a proposé donc un site dans une ancienne ferme qui avait été rachetée par la mairie et où les ateliers municipaux, enfin où les municipaux logeaient leurs outils de travail. Et à l'étage, il y avait cette salle qui était occupée au début par une association juillanaise qui l'avait laissée dans un état assez déplorable parce que bon, il y avait des trous sur les murailles, etc. Dont la municipalité a fait ce qu'il fallait, ils ont plâtré, ils ont retapissé pour en faire une pièce présentable. Et donc nous avons là trois pièces, une petite pièce qui nous sert de bureau, une autre pièce où l'on entasse le matériel, les costumes, les décors donc pour le théâtre, et puis une plus grande pièce qui a été aménagée en musée. Victor Hugo. Alors, je ne devrais pas dire musée, à vrai dire, parce que musée, pour avoir le droit au titre de musée, il faut qu'il y ait un conservateur ou une conservatrice, mais au moins à mi-temps. Si ce n'est
D'accord.
à plein temps, au moins à mi-temps, ce qui n'est pas le cas parce que nous ne sommes que des bénévoles, évidemment. Donc, il faudrait appeler ça espace Victor Hugo, peut-être plus proprement que musée Victor Hugo. Mais bon, voilà, on dit musée par commodité, quoi.
Alors dans ce musée, dans cet espace, on y trouve des choses étonnantes comme le
Oui.
rapporte la Nouvelle République des Pyrénées dans un article, je vous vois sourire, daté du 14 mai 2024, qui dit la chose suivante. Je le cite. Parmi les documents à la vente se trouvait un quatrain écrit de la main de Victor Hugo lui-même, proposé à 500 euros et adjugé à 950 euros. En suivant, et plus modestement, c'est d'une lettre de 2 pages écrite de la main de l'autre poète lyrique du XIXe siècle, Alphonse de Lamartine, que le président juillanais, en l'occurrence vous, Jean-Claude Rieu-de-Batte, s'est porté acquéreur pour un prix plus raisonnable de 40 euros. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller acheter là, un quatrain
Non,
authentique de Victor Hugo
pardon, il y a
et...
encore une correction à faire là. Il y avait effectivement un quatrain à vendre aux enchères de Victor, mais juste un quatrain. Et il est monté très haut, effectivement. Et je trouvais que c'était un peu beaucoup, quand même, pour 4 verres.
950 euros,
très peu connu. Donc j'ai attendu un peu. Et puis juste après est arrivé un autre article à la vente qui était une double page écrite de la main de Victor sur un bout de papier volant. Et c'était à propos de ce qui s'est appelé à son époque l'affaire Le Surc. Et donc là, j'ai pu l'avoir pour 400 et quelques euros.
Ah oui, quand même.
Oui. Mmh. Oui, deux pages, mais en fait, deux pages de la main de Victor, donc pour nous, c'était précieux.
Oui, ouais,
alors,
bien sûr.
Une question, ça veut dire que là, vous êtes président de l'association des Amix.
Oui.
J'ai bien noté de Victor H, donc vous avez rectifié tout à l'heure. Question, qui c'est qui a investi? C'est vous qui avez investi ou c'est l'association qui a acheté les 4 ans?
Ah non, c'est moi qui ai payé personnellement.
De votre poche?
Ah oui, oui, oui.
Ah oui, donc ça fait quand même des sommes rondelettes, conséquentes. Il faut avoir une grande admiration. Pour...
oui.
Après, ce n'est pas tous les jours qu'on va avoir, puisqu'on rappelle que c'est la salle des ventes de Tarbes, que vous trouvez effectivement ce quatrain écrit de la main de Victor Hugo.
Oui.
Cette lettre de deux pages écrite par Alphonse de Lamartine, par le poète
Oui, alors c'était un peu plus raisonnable, celle-là, c'était 40 euros, je crois.
40 euros, c'est ce qui est écrit dans l'article.
C'est une page très bien écrite, enfin très lisible en tout cas, à l'écriture un peu, à la langue un peu violette, et à la fin de sa vie, Lamartine était un peu dans la dèche, donc il avait publié une histoire de la littérature qu'il vendait par morceaux et qu'il envoyait à ses lecteurs, donc, et là il se plaint qu'il y a une famille qui n'a pas remboursé ce qu'elle devait. Alors il lui rappelle gentiment qu'il faudrait peut-être qu'il pense à rembourser.
Et cette famille se situe où? Dans les Hautes-Pyrénées? Parce que cette lettre, elle est arrivée comment? Elle se situe
Ça, j'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. Mais elle était à vendre aux enchères aussi. Ouais.
C'est peut-être que les 40 euros ont été envoyés à la Martine.
Quelle Martine?
quelle la Martine, ouais. Vraiment une histoire étonnante. Là, quand j'ai lu cet article de la Nouvelle République des Pyrénées, donc je le rappelle, dans cet article daté du 14 mai 2024, qu'on peut retrouver, que tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent vont pouvoir retrouver effectivement sur le site de la Nouvelle, de nos confrères de la Nouvelle République des Pyrénées. Voilà, j'avoue que quand j'ai préparé cette émission, j'ai été quand même... stupéfait. Donc aujourd'hui, dans cet espace, on va l'appeler comme ça, parce que vous dites qu'il faut un conservateur à mi-temps, dans cet espace Victor Hugo, vous présentez ces documents aux personnes qui viennent le visiter. Alors, et comment on peut faire pour visiter cet espace?
Bon, c'est moi qui ai la clé, sinon il n'y a qu'une clé, donc le bâtiment est fermé a priori. Bon, nous l'ouvrons quand même assez régulièrement pour y faire des séances, parce que nous y avons logé 45 chaises.
Alors des séances de ?
Sur Victor.
D'accord.
Oui, oui. Donc il y a 45 personnes que l'on peut accueillir, pas plus. Hélas, donc quand on a un spectacle un peu plus important, on demande une autre salle à la municipalité, au centre du village, où là il y a un peu plus de place et un peu plus de chaises. Et donc nous y répétons nos spectacles, et puis de temps en temps, trois fois par an environ, nous y faisons des spectacles. Oui.
D'accord, et donc
systématiquement nous respectons la Nuit Nationale de la Lecture, c'était en janvier là.
Ouais.
Alors là, il y a des gens qui viennent, des spontanés, qui apportent leur pierre, puis...
Quand vous dites qu'ils apportent leur pierre, c'est-à-dire que chacun vient avec un texte qu'il a envie de lire et qu'il peut lire.
Un texte de son choix. En général, il y a un thème qui est donné au niveau national à Paris. Et là, cette année, c'était « Villes et champs », donc c'était assez ouvert.
D'accord.
Et moi, j'ai lu deux, trois choses de Hugo, puis d'autres en ont lu aussi. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés, des « spontaneos », comme on dit en corrida. Et qui se sont levés, qui sont venus lire donc quelques textes. Ça, c'est la nuit de la lecture. Ensuite, on fait Printemps des poètes, mois de mars, opération nationale aussi. Et puis, une troisième opération qui est la nuit internationale des musées, qui a lieu en mai. Donc, tous ces trois spectacles sont gratuits. Et là, on accueille un peu de monde, oui.
Étonnant, hein. Donc l'association des amis de Victor, des Amix, pardon, de Victor H, je compte près, je l'ai vu, de 70 adhérents et adhérentes.
Oui, exact.
J'ai été stupéfait. Ce sont des gens qui viennent des Hautes-Pyrénées ou vous avez des adhérents qui viennent de plus loin?
Non, c'est des Hautes-Pyrénées. Après, il peut y avoir ponctuellement, il y a un gars qui vient de Bordeaux. Il y a eu quelques Landais, Béarnais, mais assez peu quand même. La majorité, c'est des Bigourdans, oui.
C'est vraiment étonnant. Donc, alors, on y a fait l'autre jour. Moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, Jean-Claude Rieu-de-Batte. On a eu, donc, il y a plusieurs semaines de cela, donc, un atelier d'écriture organisé par Marc Garcia, que l'on salue, hein, s'il nous écoute, qui organise également un atelier d'écriture. On l'avait reçu ici, sur le plateau de présence, donc, à AD. Là, c'est le premier atelier d'écriture qu'il a fait, donc, à l'intérieur du musée Victor Hugo. Alors, quand il m'a appelé, il m'a dit, bon, voilà, on se retrouve au musée Victor Hugo, comme si j'étais au courant qu'il y avait un musée Victor Hugo. Et je lui dis, ah bon, première nouvelle, il y a un musée Victor Hugo dans les Hautes-Pyrénées. J'ignorais totalement ça. Je ne sais pas si vous étiez au courant.
Mais non, je ne savais pas et je n'imaginais pas que Victor Hugo était venu jusque-là.
Et oui, et si je peux me permettre, il y a très peu de musées, effectivement, Hugo en France. Que je sache, il y a sa maison natale à Besançon, qui a été transformée en musée. J'y suis allé il y a très 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 longtemps, mais c'était un immeuble privé. En bas, il y avait une pharmacie, je crois me souvenir, mais ça ne se visitait pas. Maintenant, oui, ils l'ont arrangé. Après, il y a le musée de la Place des Vosges à Paris.
La Place des Vosges à Paris, voilà, celui-là,
où il a longtemps vécu.
Besançon, je ne connais pas, par contre.
Et puis, il y a la maison de Villequier, où sa fille Léopoldine donc s'était mariée avec
Vaquerie.
En Seine-Maritime,
là où elle s'est noyée, voilà, qui a donné lieu à ce poème Demain de l'aube.
La maison de sa belle famille.
D'accord, ok.
La maison de sa belle famille. Là, ça a été transformé en musée. J'y suis pas allé. La magnesse Estelle y est allée. Elle m'a rapporté des documents. Et puis, il y a dans la vallée de la Bièvre aussi, il y a un musée, que je sache.
Mais alors, la Bièvre, c'est dans quel département?
C'est la Seine-Saint-Denis ou quelque chose comme
ça. Oui,
c'est
au sud.
Au sud, parce que j'avoue, au nord de la Garonne, j'ai un peu de mal.
Voilà. La Bièvre est un affluent de la Seine qui traverse une partie de Paris.
Donc, il y a une maison, là, qui est la maison Victor Hugo, maison littéraire de Victor Hugo.
D'accord.
Il y a une de nos membres, Tina, qui y est allée, qui a aussi rapporté quelques photos. Et puis, il y a nous.
Ah oui, hein, mais oui, c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui. Hein.
Il y a quand même deux autres. Il y a Guernesey, la maison de Guernesey où il a vécu pendant 15 ans, où je suis allé trois fois, effectivement.
Alors, on va préciser pour Guernesey qu'il part à Guernesey, c'est quand même important, au moment où Napoléon Bonaparte,
Napoléon III,
fait son
coup d'État.
Victor Hugo est contre et donc est obligé de s'expatrier pendant 15 ans.
Il avait un peu la police aux trousses.
Il n'était pas le seul d'ailleurs. Puisque même Lamartine, dont vous avez parlé, s'était présenté aux élections face à Napoléon III, perd l'élection.
Il a été moins ardent que Victor Lamartine dans cette affaire. Et donc, il était parti à Bruxelles, sur la Grande Place, là, quelque temps.
Il a été expulsé.
Il a été désigné persona non grata, parce qu'il y avait tous les exilés qui venaient le trouver, ça faisait
un peu des ordres.
Oui, la France a râlé un peu sa présence, donc ils ont voté une loi spéciale pour l'expulser, donc c'est là où il est parti à Guernesey.
Guernesey est anglais, c'était plus facile.
Il a fait un crochet par Londres, il n'est pas resté très longtemps, et il est allé à Jersey. Parce que, d'une part, il voyait les côtes de France, disait-il, depuis là, ce qui est vrai. Et d'autre part, il avait eu comme première intention d'en faire qu'une étape pour venir vivre sur la côte basque. Parce que là, le climat est meilleur quand même que là-haut. Et puis, il y est resté trois ans à Jersey, puis il a été expulsé de Jersey par les autorités pour avoir signé un libelle contre la reine Victoria à l'époque. Donc, il est venu à Guernesey, où il a acheté cette maison. On dit que c'est la première fois qu'il a été propriétaire d'une maison.
Qui se visite d'ailleurs également.
Très belle maison sur trois étages avec un beau jardin. Et il a acheté ça, tenez-vous bien, rien qu'avec les droits d'auteur des Contemplations.
D'accord.
Wow.
Ça en dit long sur...
Donc, il a vécu là, et ça a été transformé aussi en musée, très joliment. Et puis, il y en a une autre à Saint-Sébastien. À l'extérieur de Saint-Sébastien, ça s'appelle Passares, et un très joli endroit qu'il a beaucoup aimé quand il est venu en 1943. Et là, il y est resté seulement 8 jours, mais enfin, il en a gardé un très 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 bon souvenir. Et c'est aussi un musée arrangé par les Espagnols maintenant. Voilà.
D'accord, qui a aussi beaucoup de respect pour le poète Victor Hugo, qui bon, malgré tout était français, né à Besançon, donc dans le Doubs, en 1802. Il avait écrit, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure là, concernant la maison à Guernesey quand il revient en France. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après de revenir en France, il écrit ce vers magnifique. Lors de son exil, il écrit « Le mois de mai sans la France, ce n'est pas véritablement le mois de mai ».
Oui.
C'est, je trouve que la phrase... Oui, tout est résumé dans cette phrase où il parle du printemps. Le mois de mai sans la France, ce n'est pas véritablement le mois de mai.
Il faut dire qu'à Guernesey, le mois de mai
oui,
doit pas être...
Okay. On ne va pas non plus tirer sur nos amis anglais leur dire
non, non, on va les laisser tirer les premiers.
Voilà, exactement, oui. Ça, c'est la bataille de Fontenoy, ça.
Ah, ouais. Ce verre-là a d'autres résonances aussi. Maintenant, depuis 68, le mois de mai sans la France, mais pas le mois
oui,
de mai.
Alors, oui, ça, c'était un autre mois de mai encore. Oui. Victor Hugo encore n'a pas vécu effectivement cette période, effectivement. Bon, on rappelle quand même hein, qu'on est avec vous, Jean-Claude Rieu-de-Batte, qui est donc le créateur et le président de l'association des Amix de Victor H. Je rappelle quand même hein, aux gens, et je les incite à aller voir cet article de la Nouvelle République des Pyrénées, donc daté du 14 mai 2024, hein, qui relate hein, l'achat que vous faites d'un quatrain écrit de la même de Victor Hugo, qui se trouve, ce quatrain, au musée, enfin à l'espace. Mmh. Victor Hugo, donc à Juillan, proposé à 500 euros à la salle des ventes que vous achetez 950 euros, donc...
Non. Je n'ai pas acheté le quatrain, j'ai acheté la double page.
La double page, ah, oui, ah d'accord. Ah, parce que ce qu'ils mettent dedans, c'est un quatrain écrit de la main de Victor Hugo.
Il était à la vente, mais je l'ai laissé passer parce que bon...
Ah mince.
C'était un peu beaucoup quand même. Je trouvais 950 euros pour 4 lignes.
Ça fait cher la ligne.
D'accord, ok. Bon, et d'accord, c'est pour ça. Tel qu'ils le mettent à l'intérieur, on a l'impression que vous avez effectivement...
J'ai hésité, mais non, quand même, il faut être raisonnable.
Bon, d'accord. Donc, vous nous avez dit un peu ce musée, les trois animations que vous y faites chaque année. Si des gens vous contactent, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont sur les Hautes-Pyrénées ou ailleurs, puisque sur présence, on est écouté sur toute l'ancienne région Midi-Pyrénées, si on a des auditeurs et des auditrices qui souhaitent visiter le musée, et comme on a bien compris qu'il n'y a qu'une clé, que c'est vous qui l'avez, comment ils font pour vous contacter et pour pouvoir, le cas échéant, visiter ce musée en dehors de ces trois journées?
Il faut venir sonner chez moi.
Ah, alors, chez vous, c'est où?
J'habite à 100 mètres à peu près seulement. C'est au numéro 12 de la rue Maréchal Foch.
Alors, 12 rue Maréchal Foch, ça c'est facile à retenir. Oui. Donc à Juillan, on vient trouver le président Jean-Claude Rieu-de-Batte. Oui. On peut venir sans vous prévenir ou est-ce qu'il vaut mieux...
En général, il vaut mieux téléphoner, mais bon, en principe, je suis quand même là.
Ouais. Vous avez une adresse courriel où les gens peuvent vous contacter?
Non,
d'accord, c'est pas votre truc le courriel. Non. Bon. Vous êtes comme moi, quoi. Vous préférez, il vaut mieux le contact, effectivement. Oui. Vous n'êtes pas un geek, comme on dit aujourd'hui.
Non, du tout.
Bon, c'est pas plus mal.
Donc voilà, je suis en face des poteaux du terrain de rugby, donc je suis très facile à trouver.
Ah, bon, d'accord, ok. Donc ça, c'est facile.
Terrain de rugby, là. Les poteaux, voilà. Vous êtes de l'autre côté. Voilà.
Vous êtes de l'autre côté. Bon, ok. On va aborder, par contre, avec vous, semaine prochaine, Jean-Claude Rieu-de-Batte, parce que, bon, on le rappelle, hein, vous êtes président de l'association des Amix de Victor H, hein, en parlant de Victor Hugo, bien entendu. Vous êtes auteur de romans également, de pièces de théâtre, de poésie. Il y a notamment les éditions Le Seloutière, j'ai regardé, qui est une maison d'édition basée à Tarbes, qu'on a reçue ici dans ce studio, donc il y a plusieurs semaines de ça, notamment
Mylène
Fondecave. Voilà, merci Diego Arabal, j'avais un trou.
De rien, c'est
Mylène,
mes voisins.
Fondecave, c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez, ça. Vous verrez à mon âge, Diego Arabal. Et Mylène Fondecave, voilà, qui dirige donc les éditions Le Solitaire. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle semaine prochaine, bon pied, bon œil, comme d'habitude, hein, après avoir évoqué donc le musée, l'espace, Victor Hugo. Mais je retiens le musée Victor Hugo, puisque tout le monde parle de musée Victor Hugo. Il n'y a pas de conservateur à mi-temps. Maintenant, s'il y a un conservateur à mi-temps qui veut bien venir à titre bénévole, que ça ait le titre de musée, on lance un appel sur les ondes de Radio Présence. Hein, pour avoir cela, je ne sais pas ce que vous en pensez,
côté, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais de notre côté, vous mettez un petit bol avec du sel, le sel étant un conservateur.
C'est une très bonne idée. On va se quitter là-dessus.
C'est le sel, c'est un très bon guide.
C'est une bonne idée, ça, de faire ça. Bon, on se retrouve semaine prochaine, ici même, dans ce studio, Jean-Claude Rieu-de-Batte, pour évoquer, effectivement, les textes que vous avez écrits. Mon cher Diego, semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Jean-Claude, au revoir.